Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous. Au micro Tige Schifferau, cette semaine Escale s'intéresse à la prochaine conférence sur l'investissement privé dans la région des Grands Lacs qui se tiendra à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, du 24 au 25 février 2016. Parmi les nombreux participants figurera notamment l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs, Saïd Djinit. Lors d'un récent passage dans nos studios, il a expliqué l'importance que revêt cette conférence pour l'avenir de la sous-région. En février 2013, les chefs de la région s'étaient retrouvés pour adopter un document intitulé « L'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région des Grands Lacs ». Au départ, 11 pays ont été signataires, puis deux autres ont rejoint la liste. S'ajoute aussi l'Afrique du Sud. Saïd Djinit explique le but de cet accord.
En tant qu'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, et en travaillant avec les autres organisations du continent et de la région des Grands Lacs, les chefs d'État de cette région se sont retrouvés en février 2013 et ont adopté un accord qui s'appelle l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région des Grands Lacs, qui a été signé par 11 pays initialement et ensuite deux autres se sont associés. Aujourd'hui, nous avons 13 pays, essentiellement de la région des Grands Lacs, plus l'Afrique du Sud, qui sont regroupés dans le cadre de cet accord d'Addis Abeba et donc qui est un mécanisme pour faire le suivi de la mise en œuvre des engagements qu'ils ont pris dans le cadre de cet accord. Et ces engagements portent aussi bien sur des questions tenant à la paix, à la sécurité, à la stabilité, mais aussi à la coopération. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord cadre d'Addis Abeba, les chefs d'État, il y a près de deux ans, un an et demi, ont approuvé le principe de la tenue d'une conférence sur les investissements privés dans la région des Grands Lacs, sur proposition de Mme Mary Robinson, qui était la première envoyée spéciale du secrétaire général pour la région des Grands Lacs. Et c'est cette initiative que nous sommes en train de mettre en œuvre, après un processus de préparation qui a impliqué des concertations, des consultations au niveau de tous les pays de la région, l'envoi d'équipes sur le terrain, avec le soutien de toutes les institutions qui sont concernées, y compris le PNUD, la Banque mondiale et les autres institutions financières internationales. Nous avons mis en place un document qui s'appelle « Investment Opportunities Brief », qui sera présenté à cette conférence sous une forme à voir encore. Et donc, un processus de sélection du pays qui doit abriter la conférence a été lancé et le choix s'est porté sur la RDC pour abriter cette conférence. Et ensuite, une date a été fixée, celle du 24 février 2016, pour donner le temps nécessaire à la préparation, à l'annonce qui a été faite formellement hier ici à partir de New York à l'occasion des assises annuelles de Business for Peace Event qui est organisé par UN Global Compact. Et nous sommes donc dans la phase de préparation de cette conférence qui sera un grand événement de coopération, de développement, mais aussi nous voulons en faire un événement politique parce que nous voulons qu'il coïncide avec le 3e anniversaire de la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba qui a été fait le 24 février 2013. Donc nous serons le 24 février 2016, 3 ans après, nous allons saisir ce moment pour, autour de la thématique de l'intégration régionale, de la coopération, faire peut-être marquer un moment important dans cette initiative. Voilà.
Est-ce que le but de cette conférence aussi, c'est peut-être de démontrer que le développement du secteur économique privé pourrait aider à la stabilité dans cette région ?
Absolument. C'est-à-dire, autant on met l'accent, et vous savez, dans le cadre de mon mandat, travaillant encore une fois avec l'Union africaine et les organisations de la sous-région, notamment la Conférence des Grands Lacs et la SADC et d'autres institutions comme l'East African Community, on a un certain nombre d'initiatives qui portent sur la prévention des conflits, les problèmes de gouvernance, mais pendant qu'on fait cela, et il faut continuer à le faire, c'est très important, pour asseoir la stabilité qui est importante pour le développement, il ne faut pas négliger la coopération. Il faut travailler et c'est le sens de cet accord cadre parce que il parle en même temps de la sécurité, de la stabilité et de la coopération en même temps. C'est-à-dire les choses doivent avancer en même temps et c'est un liant. La coopération, c'est ce qui lie les choses les unes aux autres. Et en fait, regardez d'autres modèles comme l'Union européenne qui, à travers le développement et la coopération et l'intégration, ont également consolidé les acquis en matière de paix et de stabilité. C'est un peu ce modèle, pas le modèle européen, mais le modèle de l'intégration et de tous les aspects dans une démarche politique coordonnée, réfléchie dans le cadre de l'accord cadre.
Le communiqué parle notamment des vastes ressources naturelles qu'on retrouve dans cette région. Seulement, la disponibilité en ressources naturelles a souvent été source d'instabilité. Donc, comment éventuellement résoudre ce défi?
Les atouts de la région sont énormes, aussi bien en termes de terres arables qui est disponible pour l'agriculture, un potentiel énorme pour tout le continent. Au-delà, l'eau, l'énergie, le marché. Parce que quand même, une population de plus de 300 millions d'habitants, c'est aussi un marché. Ce n'est pas seulement une main d'œuvre, mais c'est aussi un marché. Donc le potentiel est énorme. Mais nous sommes conscients du fait que, notamment de l'industrie extractive, donc de l'industrie minière, il y a eu un certain nombre de comportements qui ne sont pas conformes à l'éthique de la profession. Et bien souvent, dans certains cas, ces industries ont été aussi à l'origine de la perpétuation d'un climat d'instabilité dans la région. C'est pour ça que mon bureau, en travaillant avec d'autres organismes régionaux et internationaux, s'engage fortement dans la dynamique des investissements responsables. Donc c'est ce concept de l'investissement responsable qui est au cœur de notre démarche. C'est pour ça que nous nous appuyons sur Global Compact, qui est l'organisme des Nations Unies, qui est la relation et l'interface entre les Nations Unies et le monde privé, le secteur privé, en s'assurant toutefois que les règles d'éthique, des déontologies sont observées. C'est une garantie pour nous parce qu'évidemment, nous sommes conscients que le secteur privé, comme d'autres secteurs de la société civile et des forces vives de la nation, ont un rôle à jouer, une contribution à porter aux côtés des États et des institutions des États qu'il faut renforcer aussi pour apporter leur contribution à la stabilisation et notamment au règlement de la question du chômage, notamment du chômage des jeunes qui sinon sont désœuvrés et ils sont enrôlables par les groupes armés, extrémistes et voire terroristes. Donc c'est une grande entreprise qui a besoin de la contribution, de l'apport des États, de la société civile et en particulier du secteur privé. Évidemment, il s'agit de mettre les cadres pour une action des investissements responsables au service du développement, avec évidemment sur la base des règles de l'investissement, mais soucieux de l'éthique, du respect de l'éthique et de la déontologie.
La sous-région a subi énormément de conflits internes, comme au Burundi, en Angola, au Rwanda, au Congo, en RDC, entre autres. Est-elle en mesure de pouvoir se développer économiquement alors que dans certains pays, l'instabilité y règne encore?
C'est l'éternel dilemme entre faut-il qu'il y ait toutes les conditions de stabilité pour que le privé agisse ou faut-il en même temps intervenir? C'est un dilemme. Je suis arrivé après un certain parcours à la conclusion que le développement ne doit pas attendre la stabilité, la stabilité ne doit pas attendre le développement, et que l'un et l'autre se renforcent mutuellement. Ça veut dire qu'évidemment, il va de soi que plus on a de stabilité et mieux on peut développer, et plus on développe et plus on crée la stabilité. Mais je pense que il y a quand même des progrès, il y a des zones de progrès, il y a, je crois, que le continent de façon générale et la région en particulier des Grands Lacs sont en phase de transition. Et quand vous êtes en phase de transition, et j'ai toujours dit, même à l'époque où j'étais à l'Union africaine, que l'Afrique a entamé dans les années 90 un mouvement de transition politique, démographique, économique et autres qui va prendre du temps. Et pendant cette période, il y aura une relative instabilité ou une relative stabilité. C'est-à-dire avec des hauts et des bas, le tout est que globalement on avance vers un avenir meilleur pour le continent. Et cet avenir meilleur pour le continent, il est évident. Mais entre-temps, il va falloir payer le prix. Et le prix, c'est le prix de la transition avec des expériences qui fonctionnent très bien, des expériences qui fonctionnent plus ou moins bien et celles qui se passent pas bien. Il faut souhaiter qu'il y en ait de moins en moins d'expériences qui se passent pas bien pour que, comme je dis, vous avez parlé des élections. Vous savez, il faut pas se faire d'illusions. L'Afrique est engagée dans un processus de démocratisation, engagée dans les années 90, avec des moyens qui ne sont pas là, il faut l'avouer. Vous avez les piliers de la démocratie, la société civile, le pouvoir judiciaire, les CENI, les conseils constitutionnels, les partis politiques, le rôle de l'opposition, toutes ces institutions sont faibles. Et donc, on vous demande on se propose de faire la démocratie avec des institutions démocratiques qui ne sont pas en pleine forme. Donc, on apprend en marchant. On apprend à marcher en marchant. Donc évidemment, de temps en temps, on tombe. Mais il faut toujours se relever. C'est pour ça que je dis, dans ces processus électoraux, il y en a qui fonctionnent bien, il y en a, comme je l'ai dit tout à l'heure, et d'autres pas bien, et certains moyennement. Il faut s'assurer que globalement, les élections, c'est comme ça que je vois les choses. Il faut s'assurer dans chaque pays que les élections que vous organisez cette année sont meilleures que celles que vous avez organisées il y a 4 ou 5 ans et que celles que vous allez organiser dans 4 ou 5 ans seront meilleures que celles que vous organisez aujourd'hui pour que, de façon générale, nous avancions dans le sens du renforcement de la démocratie et de la gouvernance.
Le Burundi a défrayé la chronique depuis plusieurs semaines suite à l'annonce du président actuel de briguer un troisième mandat. Dans un contexte aussi tendu, le pays a-t-il vraiment une chance de se développer économiquement alors que les institutions semblent ne pas être respectées? Saïd Djinnit se veut optimiste.
Le Burundi fait partie de ces pays-là, en particulier de ces pays post-conflit, qui sortent du conflit et ils sont là. Vous avez la RDC, le Rwanda et le Burundi, qui sont au cœur des grands lacs, donc qui sont au centre de nos préoccupations en termes de consolidation de la paix et de la démocratie d'une part, mais aussi en termes de développement, parce qu'ils sont au cœur du potentiel de développement dans la région. Et évidemment, ils ont fait des efforts, et des progrès ont été faits, et la règle que j'ai énoncé tout à l'heure, que je me suis énoncé, que je me suis faite à travers mon expérience de faire en sorte que les élections aillent en s'améliorant, s'applique à ces trois pays. Et donc le Burundi a connu une période de plus d'une décennie de stabilité grâce aux acquis des accords d'Arusha qui ont été respectés, intégrés dans la Constitution, et le souhait de tous ce que ce pacte, ce compromis historique de l'accord d'Arusha soit maintenu. Et je suis parmi ceux qui pensent que les gouvernements qui doivent succéder dans ce pays doivent s'engager à respecter l'accord d'Arusha jusqu'au jour où le pays aura atteint un niveau de citoyenneté tel que les différences ethniques s'estompent et deviennent complètement non plus une référence, c'est une routine, que tous soient considérés comme des citoyens, mais pour le moment, ils ont besoin de cet accord. Et j'ai été très, très, très agréablement surpris de combien les populations, les citoyens du Burundi se sont appropriés cet accord d'Arusha. Ils sont conscients du fait que cet accord d'Arusha leur a permis d'avancer. Et ils ont avancé, en effet, et il est important que les prochaines élections se passent bien pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière.
Et c'est avec Saïd Djinnit que se referme Escale, un magazine consacré cette semaine à la conférence sur l'investissement du secteur privé dans la région des Grands Lacs prévue en février 2016. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.fr. www.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.